Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. La parabole du fils prodigue est un signe d'espérance car elle symbolise l'attente de Dieu qui vient toujours nous chercher et laisse toujours la porte ouverte. C'est ce qu'a écrit le pape dans les textes de la catéchèse préparée pour mercredi. Le pape François, qui a reçu une délégation du personnel soignant de Djemeli, la polyclinique où il a été hospitalisé pendant 38 jours, il leur a exprimé sa gratitude. Des messes chrismales en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église. Des inquiétudes des dissolutions d'une centaine de partis politiques au Mali, parmi lesquels les principales formations. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique, qui nous conduira aussi en Guinée, en Somalie. Au cours de cette édition, vous suivrez également la méditation avec les lectures de la messe de la Sainte du Seigneur. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Il n'y a pas eu d'audience générale mercredi, mais une catéchèse du pape François sur la parabole du fils prodigue. Dans son cycle d'audience jubilaire, après avoir médité sur les rencontres du Christ, le Saint-Père inaugure un nouveau chapitre sur les paraboles. Celle du fils prodigue est un signe d'espérance car elle symbolise l'attente de Dieu qui vient toujours nous chercher et laisse toujours la porte ouverte. Les détails de Jean-Benoît Harel.
Il s'agit de la plus célèbre des paraboles, selon le pape François, celle du fils qui demande sa part d'héritage, la dilapide et retourne ensuite chez son père. Le souverain pontife revient d'abord sur l'égoïsme du fils cadet, lassé de la relation avec son père. Or, on retrouve cet égoïsme chez beaucoup d'adultes aujourd'hui, selon François, car ils ne comprennent pas que ce n'est que lorsque l'on vit pour quelqu'un que l'on vit vraiment. L'amour est toujours un engagement, insiste-t-il, mais aussi un don précieux qui doit être traité avec soin. Dans la parabole, le fils cadet veut retourner comme serviteur chez son père, mais le pape met en garde contre cette fausse vision de l'amour qui nous fait croire que l'amour véritable ne peut pas exister. Au contraire, cet amour existe et pour le comprendre, il faut se tourner vers Dieu, le seul qui nous aime vraiment et qui laisse toujours la porte ouverte à tous ses enfants. Enfin, l'évangéliste Luc relève que Jésus raconte cette parabole aux scribes et aux pharisiens qui le critiquent, une parabole adressée donc à ceux qui sont perdus mais qui ne le savent pas et qui jugent les autres, explique le pape, priant chacun de demander à Dieu la grâce de retrouver le chemin vers la maison du Père.
Merci Jean-Benoît. Merci pour votre service à l'hôpital, c'est très bien, continuez ainsi. Ce sont des mots de gratitude du pape François adressés au personnel soignant de la polyclinique Djemeli et du personnel du service d'hygiène du Vatican, ceux qui ont pris soin de lui durant son hospitalisation des 38 jours à Djemeli. Mercredi, le Saint-Père a reçu environ 70 personnes, parmi lesquelles des membres du personnel de cette polyclinique, de l'Université catholique du Sacré-Cœur et de la direction de la santé et d'hygiène de la Cité du Vatican. François les a rassurés de ses prières et a demandé de continuer à prier pour lui. Une aide du pape François pour la Birmanie qui a été frappée par un violent tremblement de terre à la suite du séisme dévastateur fin mars qui a fait plus de 3000 morts, 4500 blessés, de nombreux déplacés et dégâts matériels en Birmanie, le Saint-Père a envoyé une contribution généreuse en soutien aux populations de ce pays asiatique qui se trouve dans une situation d'urgence. L'aide du pape a été envoyée par le canal du Dicaster pour les services du développement humain intégral et du Dicaster pour la charité, l'aumônerie du pape. À cette aide s'ajoutent celles qui proviennent des églises locales, des congrégations religieuses et des organisations catholiques. Célébration du Triduum Pascal au Vatican. Rappelons que jeudi saint, la messe chrismale sera célébrée dans la basilique vaticane à partir de 9h30. La messe In Cœna Domini, ou la messe de la Sainte du Seigneur, aura lieu à 18h dans la basilique Saint-Pierre. Vendredi saint, la célébration de la Passion du Seigneur aura lieu à partir de 17h, toujours dans la basilique Saint-Pierre. Le soir, à partir de 21h15, aura lieu les traditionnels chemins de croix au Colisée, avec des méditations du chemin de croix préparées par le pape François. Le dimanche de Pâques, la messe aura lieu dans la basilique Saint-Pierre à partir de 10h30. Toujours en convalescence, le pape François ne présidera aucune de ces célébrations. Il a délégué des cardinaux pour les faire. Vous pourrez suivre toutes ces célébrations sur notre site internet www.vaticannews.va. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire, où la messe chrismale a été célébrée mardi dans plusieurs diocèses, notamment à Abidjan et à Gagnoa. À cette occasion, des évêques ont exhorté les fidèles à devenir des véritables témoins de la rédemption et ont rappelé aux prêtres l'importance du respect de leurs engagements sacerdotaux. Les détails avec Marcel Ariston Blé.
Dans le diocèse d'Abidjan, la célébration s'est déroulée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le cardinal Ignace Dobo-Messi, ordinaire du lieu, a dans son homélie exhorté les fidèles à devenir des témoins vivants de la rédemption, de la délivrance du péché et du don de la vie éternelle.
Tout témoin de la rédemption et de l'espérance, c'est qu'il ne peut aller au ciel sans les autres avec qui il marche sur la terre des vivants. Sur la terre des hommes. L'espérance qu'il porte en lui l'invite à se tourner résolument vers la terre pour vivre intensément la charité dans la synodalité et participer à la transformation du monde.
La messe chrismale étant également le moment de renouvellement des engagements sacerdotaux, le cardinal a vivement encouragé les prêtres à demeurer fidèles à leurs promesses. Pour ce faire, il leur a recommandé de contempler le mystère de Jésus, rédempteur et témoin fidèle, dont la vie, orientée vers le ciel, fut marquée par l'observance des conseils évangéliques, chasteté, pauvreté et obéissance. À la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa, la messe chrismale a été présidée par Mgr Mauricio Reudabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Dans son homélie, il a rendu un vibrant hommage aux prêtres et les a invités à méditer sur trois réalités essentielles, la fidélité, la communion, l'espérance, tout en insistant sur l'obéissance à l'évêque.
L'obéissance à l'évêque est essentielle pour la vie de la communauté chrétienne. Et Saint Cyprien écrivit, l'évêque est dans l'église et l'église dans l'évêque. Et si quelqu'un n'est pas avec l'évêque, il n'est pas dans l'église.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Messe chrismale également dans les diocèses de Saint-Louis au Sénégal. Au cours de la célébration, l'administrateur de Saint-Louis, Mgr André Gueye, a appelé à la communion et à la collaboration étroite avec le nouvel évêque, Mgr Augustin Ndiaye. Une communion qui doit aussi se traduire concrètement par la solidarité, le partage des dons, des charismes que l'Esprit Saint suscite. S'adressant aux prêtres, Mgr Gueye a invité à vérifier chaque jour la qualité du don de soi et de le renouveler chaque jour, car la vie des prêtres est une attention et une tension permanente. Tout en remerciant les prêtres pour leur service, il les a exhortés à maintenir la grande dynamique des disponibilités à l'égard du peuple de Dieu, avec qui ils sont appelés à marcher dans la synodalité. Rencontre des prêtres et messe chrismale également à Conakry en Guinée. Joannita Scolastique nous en parle.
Le sacerdoce, signe d'espérance pour le peuple de Dieu, est le thème choisi pour la rencontre annuelle des prêtres Mardi Saint. Tout le clergé était réuni autour de l'archevêque métropolitain de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, et ont discuté sur des points tels que le défi de l'amour du clergé, l'unité et le renforcement presbytéral et des perspectives d'avenir. Après cette rencontre, les prêtres, tous ensemble, ont marché main dans la main, signe d'unité vers la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, dans une atmosphère de prière. Au cours de la messe chrismale, clôturant cette rencontre, l'archevêque déclare.
Prions donc pour tous les prêtres, pour qu'ils soient en acte et en vérité porteurs de l'onction salvifique du Christ dans le monde, qu'ils travaillent d'arrache-pied pour ne pas laisser sans effet la grâce qu'ils ont reçue, qu'ils se fassent reconnaître partout et toujours comme des ministres de Dieu.
C'est sur cette note de prière que cette belle cérémonie prit fin. Joannita Scolastique, Conakry, pour Radio Vatican.
Restons en Guinée, où le procès en appel de l'opposant Aliou Ba pour offense au président de transition s'est ouvert à huis clos mercredi à Conakry. Aliou Ba, président du mouvement démocratique libéral, a été condamné en janvier dernier à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du général Mamadi Doumbouya. Mercredi, les avocats de la défense ont boudé l'audience en quittant la salle pour des raisons de sécurité, a déclaré Maître Antoine Pépé Lama, avocat de la défense. De leur côté, La presse et des diplomates n'ont pas été autorisés à y assister. Selon la défense, ils reprochaient à Aliou Ba d'avoir, lors des meetings, appelé les chefs religieux guinéens à sortir de leur silence sur la situation de la Guinée et qualifié d'incompétents les CNRD, l'organe dirigeant des militaires au pouvoir. Des djihadistes Shebab ont lancé mercredi à l'aube une attaque d'envergure contre une ville et un centre militaire contrôlé par les gouvernements somaliens dans une région centrale de ce pays de la Corne de l'Afrique, selon des responsables. Les combats auraient débuté près du district central d'Adan Yabal vers 2h30 GMT, à environ 220 km au nord de Mogadiscio, dans la région côtière de la moyenne Chabelle, où les djihadistes ont enregistré une avancée les mois derniers. La crise diplomatique entre Paris et Alger repart de plus belle, 15 jours seulement après une accalmie. Emmanuel Macron, le président français, a décidé mardi d'expulser 12 agents consulaires algériens en réponse à une mesure similaire de l'Algérie, accusée d'être responsable de cette nouvelle dégradation brutale. Après plus de 3 ans de négociations, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont approuvé mercredi par consensus un texte historique visant à mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies. Pour l'OMS, ces États membres ont fait un pas en avant dans les efforts visant à rendre le monde plus sûr face aux pandémies en élaborant un projet d'accord qui sera examiné lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé en mai. 5 ans après l'arrivée du Covid-19, ces millions de morts et une économie mondiale dévastée, l'accord doit permettre de mieux préparer le monde, loin d'être équipé pour affronter une autre pandémie, selon l'OMS et les experts. Le chef des paramilitaires au Soudan, Mohamed Abdan Daglo, a annoncé mardi la mise en place d'un gouvernement rival au 2e anniversaire de la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé une partie du pays dans la famine. Réunis à Londres, des responsables d'une 15aine de pays, dont l'Arabie saoudite et les États-Unis, et des organisations internationales ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan et souligné la nécessité d'empêcher toute partition de ce pays d'Afrique de l'Est. Une demande de cesser le feu réitérée un peu plus tard par les pays du G7 qui demandent également à tous les acteurs extérieurs de cesser tout soutien qui alimente davantage les conflits dans un communiqué. Rappelons que la guerre a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide dirigées par le général Daglo, son ancien adjoint. La Tunisie a fait de la détention arbitraire une pierre angulaire de sa politique répressive contre les opposants depuis que le président Kais Saied s'est emparé des pleins pouvoirs à l'été 2021, a dénoncé mercredi Human Rights Watch dans un rapport intitulé « Tous des comploteurs, comment la Tunisie se sert de la détention arbitraire pour écraser la dissidence ?» L'ONG documente en détail les cas des 22 personnes incarcérées sur la base d'accusations abusives, y compris des terrorismes, après des déclarations publiques ou en lien avec leurs activités politiques. Au Mali, une centaine de partis politiques, parmi lesquels les principales formations, ont affirmé mardi dans une déclaration soupçonner les militaires au pouvoir de vouloir les dissoudre ou suspendre, comme au Burkina Faso et au Niger voisin, également dirigés par des régimes militaires. Les précisions d'Abdoul Razak Idrissa.
Les inquiétudes des partis politiques signataires de la déclaration font suite à l'annonce faite par les autorités de transition d'organiser à partir de ce mercredi des consultations en vue de la relecture de la charte des partis politiques. Les partis s'interrogent sur la pertinence, la légitimité et surtout le coût de ces nouvelles concertations ayant déjà fait objet de résolutions lors des Assises nationales de la refondation tenues en 2021 et le dialogue intermalien de 2024. L'inquiétude est d'autant plus vive que selon plusieurs acteurs politiques, ces consultations pourraient être un prélude à la suspension ou à la dissolution des partis politiques, à l'instar de ce qui s'est récemment produit au Burkina Faso et au Niger. Une hypothèse jugée incompatible avec la Constitution malienne de 2023 qui garantit expressément le multipartisme comme principe intangible protégé de toute révision. Les signataires de la déclaration ont exprimé leur refus de participer aux dites consultations annoncées par le gouvernement et demandent simplement leur report. Une demande d'audience avec le Premier ministre, le général Abdoulaye Maiga, a été introduite à cet effet. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
L'ancien ministre des Finances mauricien, Renga Naden, Padayashi, libéré sous caution lundi après 5 jours de détention, a été interpellé mercredi matin dans son domicile pour une deuxième affaire de fraude. Cette nouvelle arrestation, à la demande de la Commission des crimes financiers, porte une fraude présumée au préjudice de la Mauritius Investment Corporation, une entité créée en 2020 par la Banque centrale de Maurice pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la pandémie de COVID-19, selon la même source. Le père jésuite Laurent Bassanese nous introduit à la méditation avec les lectures de la messe de la Sainte Cène du Seigneur.
Nous approchons du jour où nous allons fêter notre passage, notre victoire sur la mort et le péché, et voici que le Christ va être trahi, livré. Nous allons fêter notre relèvement, et le Christ nous demande de plier le genou et de l'imiter dans son abaissement. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Quel est ce paradoxe? Pourquoi l'abaissement, l'humiliation? Pourquoi Jésus parle-t-il de sang versé et de trahison au moment où son amour est le plus manifeste, au cours d'un repas si solennel où il se donne dans le pain et le vin? Et puis, il y a cet exemple à imiter. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà un précepte bien difficile à mettre en pratique au quotidien. On veut bien servir de temps en temps, mais de là à en faire une règle de conduite et à donner sa vie, on y réfléchit souvent à deux fois. Et pourtant, nous sommes là au cœur de la vie chrétienne. Si vous vous comportez comme les autres hommes, nous dit Jésus dans l'Évangile, que faites-vous d'extraordinaire? De fait, tout homme quelque peu religieux désire être en accord avec son Dieu, accomplir sa volonté, demeurer dans son alliance. Et pour cela, il multiplie les offrandes, les sacrifices, les efforts, les prières, attendant en retour une bénédiction, une lumière sur sa vie. Mais le culte chrétien est tout différent. Non pas une cérémonie au cours de laquelle on perpétuerait le souvenir d'une belle histoire, ni même un exemple à suivre que l'on essaierait vainement de plaquer sur ses actions, mais une transformation permanente et existentielle de sa vie à cause du Christ qui s'est fait semblable à nous en descendant au plus bas. Il a connu les pires épreuves que puisse connaître un homme, trahison, abandon, reniement, procès inique, condamnation injuste, coup, flagellation et dérision, crucifixion. Et il n'a pas cessé d'aimer. Il a offert cette existence rejetée dans une prière intense au Père pour nous, et il a été exaucé. À cause de cela, tout homme qui met sa foi en lui est en communion avec Dieu, quelle que soit son histoire. Il ne s'agit plus de consumer en passant par le feu des animaux pour espérer accéder à Dieu, mais bien plutôt de transformer son existence, de changer sa vie par de véritables sacrifices spirituels, grâce à la charité, vrai feu du ciel, l'esprit même de Dieu. C'est cela le sacerdoce du Christ que nous fêtons ce soir. En accomplissant pour nous ce qu'aucun acte humain ne pouvait atteindre, il nous a mis en relation personnelle avec le Père. Notre seul effort désormais consiste à briser le cours de notre vie passée en plongeant dans la mort du Christ, en vivant de notre baptême et en nous nourrissant de son corps et de son sang. Notre joie sera alors profonde, pas du tout superficielle, car enraciné par la croix dans la réalité de la vie. Par cette croix, nous pourrons à notre tour mettre les hommes en relation avec Dieu, et le monde connaîtra alors la véritable joie, celle qui demeure pour toujours.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.